Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument, disait l'historien italo-germano-britannique Lord Acton au XIXe siècle, qui ne manquait jamais d'ajouter « Les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais ». L'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Muammar Kadhafi, la Syrie de Bachar al-Assad et maintenant la Turquie de Recep Tayyip Erdogan ou l'Égypte du maréchal Sisi, le pouvoir corrompt-il les hommes au point d'en oublier les libertés essentielles à la vie en société, liberté de penser, de créer, de se déplacer, de critiquer. Face à cette montée des pouvoirs autoritaires, comment défendre encore dans cette partie du monde les droits humains les plus élémentaires? C'est le débat que nous vous proposons avec nos invités Lina Atala et Gensis Akhtar dans une émission qui a été enregistrée en public au Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre des rencontres AVROS et qu'Orient Hebdo a diffusé une première fois en novembre dernier. Lina Atala, bonjour.
Bonjour.
Co-fondatrice et rédactrice en chef du site d'actualité bilingue Mada Masser, membre également du collectif d'art et de recherche Take to the Sea, qui expose notamment au Caire, à Berlin ou à Jakarta. Et puis Gensis Akhtar, bonjour.
Éric Bataillon, bonjour.
Politologue, docteur en épistémologie économique. Vous travaillez également sur les politiques de mémoire. Vous conseillez diverses associations, dont notamment le projet Aladdin, un programme culturel et éducatif portant sur les enjeux aux relations judéo-musulmanes. Oui. Alors Lina Atala, on va commencer avec vous. Votre site d'information apparaît comme l'un des derniers bastions de liberté d'expression, en tout cas en Égypte, face à la censure et aussi à une grande répression des journalistes. Quelle est la situation des médias égyptiens aujourd'hui et comment votre site arrive-t-il à s'en sortir ?
Donc, depuis l'an 2013, lorsque l'Égypte a vécu une transformation politique profonde lors du changement du régime et le départ du régime des frères musulmans, la plupart des médias, notamment bien sûr les médias de l'État, mais aussi les médias privés, ont fait un choix très clair de s'aligner avec les forces militaires, avec les forces armées, parce que c'était perçu pour eux que c'est la meilleure façon de survivre, que s'opposer à l'institution militaire peut coûter à ces médias beaucoup.
Leur existence, parfois.
Leur existence, leur capacité de continuer à fonctionner de façon normale, même la possibilité de ramener des sous par l'intermédiaire de la pub et des réclames et tout ça. Et donc le choix était clair, devenir des bastions de soutien du régime ou d'institutions militaires en général, ce qui a fait que la scène des médias, la scène médiathèque en Égypte est devenue en grande majorité en soutien de l'institution militaire. Et c'est dans ce contexte-là que notre média est né. C'est avec le désir de raconter des histoires qu'on savait bien qui n'allaient pas être racontées, surtout au niveau de la répression, surtout au niveau de la persécution de plusieurs groupes. On savait bien que l'Égypte allait retomber dans une certaine obscurité au niveau de porter des témoignages à des choses nécessaires qui sont en train de prendre place. Et notre média a juste décidé de prendre la responsabilité de résister à cette invisibilité-là.
Mais vous faites des enquêtes, par exemple, des enquêtes de terrain, de la recherche. Vous faites remonter des informations qui ne sont nulle part ailleurs.
En fait, en principe, l'actualité, c'est un choix très... Il y a beaucoup d'intentions derrière ce choix-là, parce qu'on voit bien que tout le monde est en train d'écrire des opinions et des analyses, alors que tout ce qui est l'assemblage de l'information et le travail de l'actualité est devenu un peu plus à l'écart. Pour nous, cette idée de porter témoignage à toutes ces transformations, ça s'est manifesté dans l'actualité, mais on fait aussi des enquêtes et la recherche, surtout pour des questions qui ont besoin de temps, oui, de temps pour la production.
Et le fait d'être sur Internet vous permet de toucher en priorité la jeunesse ?
Bien sûr, notre lectorat est surtout des jeunes, puisque nous sommes sur Internet, mais c'est une grande marge de jeunesse qui commence dès les vingtaines, mais qui continue jusqu'aux quarantaines et cinquantaines.
Gensis Akhtar, la dérive autoritaire est-elle bien là en Turquie et les libertés publiques sont-elles vraiment menacées aujourd'hui?
La dérive autoritaire, je crois que c'est très faible pour qualifier ce qui est en train de se passer en Turquie. Moi, j'appelle ça la dérive fasciste. Parce que Vous savez, le gouvernement, le régime a un dessein politique, n'est-ce pas? Ils essayent de mettre en place une nouvelle société, ils musellent la presse, ils quadrillent la société. Mais une partie non négligeable de la société applaudit ce que le régime est en train de faire. Donc il y a une très grande différence entre un régime autoritaire classique, une dictature, qui impose son modèle, sa pratique politique, n'est-ce pas? Eh bien, en Turquie, lui, enfin, le régime impose sa pratique politique, mais la moitié de la population l'applaudit. C'est très différent, n'est-ce pas? L'autre moitié l'a subi, bien sûr, mais une grande majorité, enfin, plus de 50%, applaudit à tout ce que fait le régime d'Erdogan. Là, en cela, ça ressemble plus aux années 1930 en Allemagne ou 1920 en Italie que à des dictatures classiques qu'on connaît dans la région, n'est-ce pas?
Mais en Turquie aujourd'hui, les libertés fondamentales sont reniées, du verbe rogner, c'est-à-dire on les attrape peu à peu, et on les réduit à leur plus simple expression, les unes après les autres.
Il y a 12 libertés fondamentales énumérées par la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Turquie est non seulement signataire, mais initiateur, n'est-ce pas, initiatrice. Eh bien, pratiquement aucune de ces libertés ne sont respectées par le régime en Turquie. Et dans tous les classements internationaux, qu'il s'agisse de Reporters sans frontières, de Freedom House, de Human Rights Watch, là, la Turquie traîne vraiment avec les cancres habituels, n'est-ce pas, le Zimbabwe, la Chine, la Corée du Nord, etc. Toujours en bas de liste. C'est pas la peine de continuer à élaborer. Je crois que c'est très clair. En Turquie aujourd'hui, il y reste vraiment 3 sites internet qui libres, qu'on peut appeler, et encore, ils font de l'autocensure parfois, et 3 journaux indépendants, quotidiens indépendants, point à la ligne. 172 journalistes en prison, c'est absolument le record du monde.
Des journalistes, mais aussi des défenseurs des droits de l'homme, des avocats, etc. L'Égypte autoritaire se construit sous l'emprise de l'armée face, dit cette dernière, à la menace islamiste. Est-ce que cette vision politique vous paraît juste, Lina Atala?
À mon avis, ça nous gâche beaucoup de possibilités de penser à la politique au niveau de cette binaire entre les forces islamistes et le pouvoir militaire. Et pour nous, il y avait toujours une possibilité d'une troisième alternative si, dès le début, la structure et le bastion du pouvoir de la force en Égypte, notamment l'armée, a bien voulu accepter que cette alternative existe. Et donc, bien sûr, la façade, c'est cette binaire. Nous avons les forces armées et l'institution militaire qui fait face aux islamistes. Mais c'est juste une façade. Et je pense que l'enjeu, c'est qui a la force, que ça soit une force d'armes ou une force de prendre charge des rues et de mobiliser les rues, ce qui était bien sûr la force des islamistes à un moment donné. Donc c'est une question, qui a la force de prendre le pouvoir maintenant?
Gentis Akhtar parlait d'autocensure il y a un instant. Est-ce que vous, dans votre pratique du journalisme aujourd'hui en Égypte, vous pratiquez l'autocensure? Est-ce qu'il y a des sujets vers lesquels vous n'allez pas?
On ne fait jamais comme ça. Il n'y a pas de sujets vers lesquels on ne va pas juste parce que ça fait peur de les voir, d'écrire là-dessus, de faire des sujets là-dessus. Pour nous, on essaye au fur et à mesure de ne pas imaginer des choses qui sont interdites parce que ça ouvre une fenêtre à beaucoup d'autocensure. Et moi, j'étais toujours de l'avis que l'autocensure, c'est un état psychologique. Si on commence, on s'arrête jamais. C'est une maladie, c'est contagieux. Si un éditeur au sein de la rédaction commence à avoir de l'autocensure, ça va se diffuser. Donc, c'est vraiment une question d'essayer de la résister en plus que possible. Je ne dis pas que nous sommes les plus braves, les plus courageux du monde entier. Comme je viens de dire à la table ronde, la plupart du temps on a peur, mais on préfère passer par cette expérience de peur que d'avoir l'autocensure.
Et d'ailleurs, votre site est fermé, on ne peut pas le consulter lorsqu'on est en Égypte.
Oui, c'est vrai, notre site a été bloqué depuis le mois de mai de cette année, mais on est en train de diffuser le contenu dans des plateformes alternatives, et donc tout le monde a accès effectivement au contenu.
D'où l'intérêt d'être en multilingue, si je puis dire, en tout cas bilingue.
Oui, exactement.
Bataillon, en la matière, pardon de vous interrompre, eh bien, il y a un site internet turc qui vient d'être lancé il y a 15 jours, de l'étranger, en trois langues, en turc, en anglais et en arabe. Hein. Ça fait uniquement de l'information, le quartier général se trouve entre New York et Londres, et ça s'appelle Ahval News, mais c'est pas avec un W comme en arabe, mais avec un V comme en turc. Donc Ahval News ensemble.com. C'est très précieux par les temps qui courent parce qu'il n'y a pratiquement pas d'informations sur la Turquie, sur ce qui se passe.
Alors justement, ça me permet de rebondir sur la question de qui résiste aujourd'hui en Turquie, qui sont ceux qui n'adhèrent pas au projet Erdogan et qui donc essayent de résister.
Alors ceux qui ne sont pas partis et ceux qui n'ont pas accepté le régime, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas accepté de collaborer avec le régime, ou simplement de s'y plaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste? Il reste les Kurdes et il reste les femmes. Surtout les femmes démontrent en Turquie une force de résistance extraordinaire. Elles sont de tous les combats.
Comme Asli Erdogan, par exemple, l'écrivaine Asli Erdogan.
Oui, Asli Erdogan, qui est invitée des rencontres et qui est une écrivaine qui a été mise en taule. Elle ne sait toujours pas pourquoi elle est allée en prison, n'est-ce pas? Mais la plupart des écrivains sont en prison et sans savoir pourquoi. Alors donc, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce sont des poches de résistance, de l'opposition, de protestation très importantes. Peut-être préparer l'avenir, mais c'est l'avenir démocratique ou la fin de cette parenthèse cauchemardesque, n'est-ce pas, que la Turquie commence à peine à vivre, eh ben c'est pas demain. Hein,
oui, d'autant que beaucoup d'actions de ce gouvernement présidé par Erdogan visent à changer en profondeur la société turque, notamment en refaisant par exemple les livres d'histoire.
Absolument.
Donc là, il y a un problème au niveau par exemple de l'éducation. Il faudra revenir sur tout cela un jour. Est-ce que ça sera possible?
Et c'est ça qui est très difficile. Alors, dans mon intervention aux rencontres d'Averroès, j'ai signalé que les grands corps de l'État, à savoir l'académie, l'armée, l'administration du territoire, le trésor, les affaires étrangères et le judiciaire, bien sûr, le système judiciaire, tous ces grands corps sont en ruine en Turquie. Alors, de revenir là-dessus, même si par miracle le régime s'en va aujourd'hui, ça prendra 3 décennies. Vous savez, c'est comme les pays ex-communistes après 89. Sans l'Europe, ils auraient jamais réussi à se refaire parce qu'il fallait réinventer tout l'État et toute la bureaucratie, n'est-ce pas? Et la Turquie va vivre le moment venu, ce malheur enfin. Donc c'est vraiment pas terminé, on en est encore très très loin.
Lina Atala, justement en Égypte, qui résiste aujourd'hui? Je sais que vous faites partie d'un groupe d'artistes qui se projettent sur l'étranger, qui exposent. Est-ce que le milieu artistique, par exemple, est l'un de ceux qui tentent de résister aujourd'hui au pouvoir fort?
Donc qui résiste, c'est aussi ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont décidé de rester. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des gens qui sont différents de ceux qui ont fait la résistance depuis avant la révolution. Ça veut dire que ceux qui restent aujourd'hui, ça fait partie d'un trajectoire, d'un parcours qui est resté pour assez longtemps, de résister contre différentes formes d'autoritarisme et de régime autoritaire. Et donc jusque-là, ce sont toujours des défenseurs de droits d'homme, ce sont des journalistes, ce sont aussi des artistes. En l'absence de structures politiques d'opposition, l'art et les espaces d'art ont toujours agi comme alternative de rassemblement, de penser ensemble, de penser à d'autres possibilités d'après lesquelles on peut consommer la réalité là. Donc,
alors, on voit qui peut ou ne peut pas, ou peut un peu, beaucoup, résister sur le plan intérieur. Mais les résistances extérieures, et notamment l'Union européenne ou d'autres pays voisins, que peut-on faire pour aider aussi bien l'Égypte que la Turquie, le Gisaktar?
Sincèrement, pas grand-chose. Parce que d'abord, il faut savoir que le régime est prompt à dénoncer tout soutien qui vient de l'Europe. Parce que c'est un régime anti-occidental. Vous savez, c'est le système soviétique, le système de propagande soviétique. Le soutien occidental est un signe de complot ou de anti-turquisme, n'est-ce pas ? Donc en cela, il faut faire très très attention, mais il est évident que les sociétés civiles et l'opinion publique occidentale a tout intérêt, en fait. C'est pas seulement du soutien pur, de la solidarité béate, n'est-ce pas ? A tout intérêt à supporter ce qui se passe, à soutenir, à appuyer ce qui se passe, même si rudimentaire, en Turquie ou en Égypte ou en Syrie. Vous savez, la Syrie, le moment venu, quand on cessera de s'entretuer, ben, le grand problème de la démocratie, enfin, démocratie c'est un grand mot, mais enfin, de la normalisation se posera. Qui va faire quoi, n'est-ce pas ? Donc là, vous savez, j'ai toujours dit, lorsque je défendais l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, que l'Europe, maison de poupée, ne marchera pas. Mais une Europe bien chez elle ne marchera pas. Tant, parce que c'est pas une île, n'est-ce pas ? C'est ouvert sur le monde et surtout à son est, à son sud. Il va falloir composer avec tous ces pays-là et surtout avec les forces vives, libérales et sociales de ces pays-là. Sans ça, on va tous ensemble à la dérive.
Lina Atala, même question concernant l'Égypte. Que peuvent faire les pays voisins et surtout que peut faire l'Union européenne pour aider l'Égypte à sortir de l'impasse dans laquelle elle semble être aujourd'hui ?
À dire la vérité, c'est pas le genre de question qui me concerne parce que je sens que les rapports entre les États, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse en tant que mouvement de résistance et en tant que militant, et ça sera toujours quelque chose qui va nous dépasser parce que c'est plutôt géré par des rapports de force, par des intérêts qui ne reflètent jamais nos intérêts. Par exemple, on sait très bien que pour l'Europe, les questions principales qui gèrent la relation avec le sud de la Méditerranée, notamment l'Égypte, c'est des questions de la migration, c'est la question du terrorisme, c'est la question de la stabilité régionale vis-à-vis Israël notamment. Et là, c'est pas des questions dans lesquelles on peut intervenir, c'est vraiment une vision qui nous dépasse.
Donc chaque pays doit faire seul. C'est ce que vous nous dites ?
Oui, en plus qu'il y a toujours du réseautage au niveau du Sud aussi qui importe, au niveau de mouvements de résistance un peu partout dans le monde, même au sein de l'Europe. Donc je trouve que mes interlocuteurs sont au sein de ces mouvements surtout.
Sans une solidarité internationale, on ne s'en sortira pas. Je dis « on », je parle de tout le monde, là, de vraiment du voisinage comme de l'Europe en tant que telle.
Merci Cengiz Aktar. Je rappelle que vous êtes politologue, docteur en épistémologie économique, et aussi auteur de L'appel au pardon, des Turcs s'adressent aux Arméniens. C'était publié en 2010 aux éditions du CNRS. Merci également à Lina Atala, cofondatrice et rédactrice en chef du site d'actualité égyptien bilingue Madame Asser. Ce numéro particulier d'Orient Hebdo a été réalisé par Mathias Golshani et Bertrand Éclair en public au Théâtre de la Criée à Marseille dans le cadre de la 24e édition des Rencontres Averroès. Vous pouvez la podcaster sur notre appli Pure Radio, également la réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. En attendant le journal, le groupe égyptien Kéroki avec ce morceau Dinosaure sorti en 2017. علينا بدري عايشين وبناوح في العصر الحجري انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عالنصيا وبيسكور انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عالنصيا وبيسكور